J'aime énormément ce récit des pèlerins d'Emmaüs, pour tout vous dire. Parce qu'en effet, après Pâques, tout le monde se préoccupe de savoir de quelle manière Christ est ressuscité, est-ce qu'il est ressuscité en chair et en os, et comment, est-ce qu'il a retiré les bandelettes et tout ça. Et en fait, pour moi, la seule vraie question, c'est de savoir comment Christ est ressuscité pour nous et comment il peut nous apparaître. Et je trouve que c'est l'un des textes dans lesquels on peut le mieux se projeter. L'image de ces disciples qui cheminent tout tristes, un peu découragés, et finalement, ce que l'on apprend, c'est que Jésus marche avec eux. Et eux ne s'en rendent pas compte parce que Jésus marche toujours à nos côtés, peut-être surtout quand nous sommes tristes et découragés, et souvent nous ne le voyons pas. Et ils marchent avec eux, ils étudient l'Écriture, et dans cette quête de l'Écriture, cette recherche, là encore, ils ont l'impression qu'il n'y a pas de présence, mais il y a une présence. Et à la fin, ils découvrent tout à coup qu'en fait, ils étaient accompagnés, qu'il y avait cette présence un peu invisible, incompréhensible et mystérieuse qui marchait avec eux. Et ils se disent, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il marchait avec nous et qu'il nous parlait l'Écriture ? Et ensuite, on nous dit que Jésus voulait aller plus loin, parce que là encore, nous cheminons et parfois nous voulons nous arrêter, mais Jésus toujours veut aller plus loin. Et finalement, il a cette tendresse extraordinaire de rester avec les disciples. Et là, il les nourrit, il leur donne le pain et le vin. Et là, ils le reconnaissent, mais Jésus disparaît. Cette histoire est extraordinaire parce que c'est peut-être un des récits d'apparition dans lequel on peut le mieux se projeter soi-même dans l'expérience de la présence et de l'absence du Christ que nous pouvons faire. Mais évidemment, vous vous en doutez, ce texte est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Et on peut le prendre de bien des manières, mais il y a une question qui, moi, me tracasse depuis des années, c'est de savoir pourquoi les appelle-t-on les pèlerins d'Emmaüs. En effet, on nous dit que c'est parce qu'ils allaient à Emmaüs, mais pourquoi la Bible nous dit qu'ils allaient à Emmaüs ? Ils auraient pu, après tout, aller aussi bien à Rome, à Compostelle ou à la Porte des Lilas, qu'est-ce que ça change ? Si la Bible nous dit que c'est à Emmaüs, c'est que c'est important. Simplement, voilà, Emmaüs, personne ne sait où c'est. C'est une ville qui n'est jamais citée nulle part, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau, et même aujourd'hui, c'est une ville qui n'existe pas. Alors je vous rassure, si vous allez à Jérusalem, on va vous montrer où est Emmaüs. On va même vous en montrer plusieurs. C'est-à-dire que, comme le texte dit que c'est à 60 stades, ça fait 20 kilomètres. C'est vrai, c'est la distance qu'on peut faire en une journée de Jérusalem. Alors on a trouvé toutes les villes, en gros toutes les villes à 20 km de Jérusalem s'appellent Emmaüs. Alors suivant les cartes touristiques, on va vous en montrer une ou l'autre, en tout cas on ne sait pas. Alors, comme j'ai l'esprit tortueux, j'ai regardé le texte. Dans ce cas-là, il faut revenir au texte. Et en revenant au texte, je me suis aperçu qu'il y avait un doute sur le nom de cette ville. Certains manuscrits disent Emmaüs, et il y a une variante très importante dans un des manuscrits que j'aime le plus, qui est celui qu'on appelle du Codex de Bèze, c'est-à-dire qui a été trouvé par Théodore de Bèze, le grand réformateur. À ce moment-là, ils disent que la ville ne s'appelait pas Emmaüs, mais Oulamaüs. C'est pas très loin. Mais Oulamaüs, ça me plaît parce que ça, je connais. Oulamaüs, c'est une ville qui est citée dans l'Ancien Testament, dans un endroit. C'est le récit du rêve de Jacob, où il voit l'échelle avec les anges qui montent et qui descendent, et où Jacob, à la fin, dit « Certainement, Dieu était présent en ce lieu, et je ne le savais pas. » Et tout à coup, je me dis « Mais est-ce que par hasard, il n'y aurait pas justement un lien entre ces deux textes ?» Eh bien, je trouve qu'il y a un nombre de ressemblances incroyables entre ces deux textes. D'abord, tous ces deux textes, donc du rêve de Jacob et des pèlerins d'Emmaüs, tous les deux se passent au coucher du soleil. Bon, c'est un hasard, vous me direz. Ensuite, dans les deux cas, il y a un lien entre le ciel et la terre. Pour Jacob, il y a l'échelle avec les anges qui montent et qui descendent. Et puis, pour le récit des pèlerins, eh bien, il y a Jésus qui fait le lien entre le ciel et la terre. Et il est aussi question de choses qui montent et qui descendent. Hein. Jésus qui descend du ciel vers la terre et ensuite qui remonte vers son Père, qui redescend à la résurrection, qui remonte à l'ascension. Et puis il y a aussi, dans les deux cas, cette présence de Dieu qui n'est pas comprise tout de suite. Quand Jacob dit « Certainement, Dieu était présent en ce lieu et je ne le savais pas ». C'est la même chose quand les disciples disent « Mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous ?» Et puis dans les deux cas aussi, mais ça, vous n'avez peut-être pas pris garde à l'écoute du texte, dans les deux cas, il est question que Dieu donne du pain à manger. C'est la conclusion du texte de Jacob. Il dit « Si Dieu me nourrit, si Dieu me donne du pain, je croirai que c'est lui mon Dieu. » Et dans les pèlerins d'Emmaüs, c'est ce que fait Jésus à la fin, il donne son pain. Et dans les deux cas, enfin, il est question, au bout du texte, de revenir de là où l'on vient, c'est-à-dire vers Jérusalem et vers la patrie de ses ancêtres. Alors donc, je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas creuser un peu cela et se demander si ces deux textes ne s'expliquent pas l'un l'autre et si le récit des pèlerins d'Emmaüs ne serait pas une sorte de remake évangélique de ce texte de Jacob. Oui, certainement. D'abord, au départ, on est bien la même situation. Les disciples, comme Jacob, sont en train de s'éloigner de Jérusalem, ou s'éloigner de la terre promise. Jacob est en fuite, les disciples sont en déroute après leur déception, et ils filent tous les deux un mauvais coton, parce que, enfin, ils arrivent tous les deux vers l'endroit que je vous ai cité, qui s'appelle, alors d'après l'Ancien Testament, Oulamaüs. Oulamaüs, ça veut dire la porte du défaut ou la porte du crime. Et d'ailleurs, Emmaüs, ça veut dire la même chose. Ça veut dire la puissance du crime ou la force du défaut. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est que finalement, cette variante dont je vous ai parlé n'en est pas une. Géographiquement, ça n'a aucun intérêt. On est là dans une démarche spirituelle et peu importe que géographiquement les disciples aillent ici ou là, ils vont vers Emmaüs ou vers Oulamaüs ou vers Oulamlouz, comme dit le texte hébraïque. Dans tous les cas, ça veut dire qu'ils vont vers le défaut, vers l'erreur, vers le péché, vers le crime. Ce n'est pas un lieu géographique, mais ils vont vers l'égarement, vers l'éloignement. Et de même, quand on parle de ces 60 stades, peu importe que ce soit à 20 km de Jérusalem, 60, ça a rapport avec le 6, 6 qui est le nombre du mal. Et donc, dans les deux cas, on voit ces disciples, comme Jacob, qui sont sur une mauvaise route. Oui, vraiment, ils ne sont pas sur une route de vie, ils sont sur une route d'égarement, sur une route d'éloignement de là où ils devraient être. Ils ne sont pas là où ils devraient être. Chose qui nous arrive souvent, admettez-le, et nous avons beau nous considérer comme des gens remarquables, il arrive souvent que nous nous éloignions de là où nous devrions être et que nous ne soyons pas ce que nous devrions être, que nous nous éloignions de la source ultime de la vie, et de l'espérance et de la paix qui est Dieu lui-même et que nous nous éloignions du chemin de la vie qui est l'amour du prochain, qui est le don de soi jusqu'au sacrifice et qui est l'amour total. Et donc oui, comme ses disciples, nous sommes parfois dans l'absence de foi dans la vie du Christ ressuscité. Et il y a là une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que même dans nos chemins d'égarement, eh bien, Dieu nous rejoint et fait route avec nous sans que nous nous en rendions compte. Cela peut vous sembler sans importance, mais je crois que c'est absolument essentiel. Parce que trop souvent, la religion explique par exemple aux enfants des catéchismes et tout ça que s'ils sont bien sages, Dieu sera avec eux. S'ils font bien leur prière, ils auront l'espérance de Dieu et que Dieu accompagne le fidèle, que Dieu accompagne le juste. Eh bien, évidemment que Dieu accompagne le fidèle et le juste, mais ce que nous savons là, c'est que même celui qui s'égare et même celui qui n'a pas la foi suffisante comme il le faut, eh bien néanmoins, Dieu l'accompagne et que le Christ est là. Dieu nous rejoint quoi qu'il arrive et il fait route avec nous même si nous ne nous en rendions pas compte. Alors ça, c'est une promesse essentielle qui est également les derniers mots de l'évangile de Matthieu. quand Jésus dit, d'après Matthieu, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et c'est la même chose d'ailleurs qu'il dit à Jacob dans le texte que je vous ai lu. « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, et je ne t'abandonnerai pas ». Et donc oui, vraiment, ça c'est la première des très grandes nouvelles. Christ marche avec nous, même il est toujours là, quels que soient nos chemins, et même si on ne le sent pas, il y a cette présence mystérieuse qui nous accompagne. Alors, de quel ordre est cette présence et comment se trouve-t-elle? Alors, ce qui est vrai, c'est que cette présence de Dieu si efficace, elle est curieuse et on ne la reconnaît pas tout de suite, mais elle se trouve dans quelque chose de particulier et qui nous est bien dit dans le récit des pèlerins d'Emmaüs. Si vous lisez bien, le moment où Jésus apparaît avec ses deux disciples, c'est au moment où le texte dit... Au moment où ils étaient en train de discuter entre eux et de rechercher, de quêter, de rechercher, Jésus apparaît. C'est-à-dire que Jésus apparaît dans nos quêtes, dans nos discussions. Et dès qu'on est plusieurs en particulier, puisqu'ils sont au moins deux, à rechercher, à questionner et à s'interroger, Jésus est là. Ça, je le crois très fort. Et finalement, il va cheminer avec eux tout le temps qu'ils sont en train de parler de la Bible. Et ils disent, en partant de Moïse, par les prophètes, et jusqu'au bout, ils cherchent et ils quêtent tout ce qui concerne Jésus et tout ça dans la Bible. Et là, Jésus fait route avec eux. Eh bien, ça, je le crois. Je pense qu'effectivement, chaque fois que nous lisons la Bible, chaque fois que nous quêtons, chaque fois que nous interrogeons, peut-être que nous ne le savons pas, mais Jésus fait route avec nous. Et là, c'est ce que Sophie est en train d'enseigner aux enfants de l'école biblique, puisque vous savez que les enfants ont le même sermon que vous, mais en plus court. Eh bien, elle leur dit ça. Elle leur dit, vous savez, tout ce temps que nous passons à étudier la Bible, comme les disciples d'Emmaüs, de Moïse, par les prophètes, jusqu'à l'Apocalypse, eh bien, dans toute cette étude, peut-être que vous ne le savez pas, mais Jésus est présent. Et il y a là une vraie présence, une vraie source de vie qui vous accompagne. Et ça n'est pas parce que vous ne vous en rendez pas compte qu'elle n'y est pas. Peut-être qu'un jour, vous découvrirez cela. Et donc oui, la source même de cette présence, c'est cette pratique de l'écriture, ce questionnement de l'écriture. C'est ce que nous faisons là d'ailleurs en ce moment, et c'est ce que vous pouvez faire à tout instant de votre semaine. Et pour Jacob, c'est la même chose. On nous dit que Jacob, Jacob dit Dieu était présent. Où est-ce qu'il est présent dans le songe? Il est présent par les anges qui montent et qui descendent. Un ange, dans la Bible, ce n'est pas une personne avec des ailes qui se cache le sexe. Un ange, c'est un messager, un porte-parole. Et donc là encore, la présence de Dieu pour Jacob, ce sont ces anges, c'est-à-dire ces paroles qui montent et qui descendent, avec peut-être des paroles de Dieu qui descendent jusqu'à nous, des paroles de nous qui montent jusqu'à Dieu, qui sont nos interrogations, je ne sais pas. Et ensuite, juste après, dans la Genèse, on nous dit que Jacob se bat avec l'ange. Il a un combat avec l'ange. Et là encore, c'est ça. Jacob se combat avec l'ange, avec la parole, avec le messager, avec l'écriture. Et nous devons, comme Jacob ou comme ses disciples, cheminer en nous... En compagnie de l'Écriture, en combattant corps à corps avec la Bible, avec le Christ. Il faut débattre, il faut rechercher à plusieurs, il faut en parler toute la nuit. Il y a peut-être là une forme d'aridité même dans cette histoire, mais c'est ce qui permet d'accéder à la bénédiction. Et je crois effectivement que quand on étudie la Bible, à plusieurs en particulier, on ne s'en rend pas toujours compte, mais il y a une présence réelle. Comme Jésus a dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Oui, je crois que c'est vrai. Et on n'est jamais seul avec sa Bible. Mais on est toujours accompagné par la présence vivifiante du Christ qui donne sa tendresse et qui nous donne espérance et intelligence. Alors cela, c'est un beau discours qui donne envie, n'est-ce pas? Un beau discours publicitaire, une belle promesse électorale. Mais en même temps, les choses ne sont pas toujours si simples, parce que la parole n'est pas que douce, et parfois elle est difficile, et parfois elle remet en cause. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que ce soit une source de vie, parce que ce qui nous remet en cause est peut-être aussi ce qui nous fait avancer, ce qui nous aiguillonne est peut-être aussi ce qui nous permet de ne pas nous endormir sur place. Et en effet, cette parole difficile, on la trouve dans les deux textes aussi. D'abord, dans les pèlerins d'Emmaüs, la première chose que fait Jésus quand il leur apparaît, c'est de les engueuler. Bon, pas très agréable. Et il leur dit « Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire », etc. Donc vous voyez, la Bible, certes, elle est douce, elle nous dit que Dieu nous aime et qu'elle nous accompagne, mais parfois aussi, elle nous remet un peu en cause. Et c'est peut-être un des moyens avec lequel elle nous donne la vie. Et donc ce côté difficile, ardu, parfois contrariant de la Bible, fait partie, je crois, de la méthode avec laquelle elle nous réveille et nous donne la vie. Et quant à Jacob, eh bien c'est pareil, et vous le savez, il va combattre avec l'ange. Et on nous dit qu'il va en sortir boiteux, boiteux mais béni. Et est-ce que le chrétien n'est pas comme ça? Ou finalement sa vocation de chrétien le rend parfois un peu estropié ou un peu boiteux parce que ça lui complique la vie et que finalement ce n'est pas que de le caresser dans le sens du poil, mais qu'il en sort béni. Dans tous les cas, ce que je remarque, c'est que pendant tout le temps de leur cheminement, cette présence du Christ et cette étude de la Bible n'apportent rien aux disciples. Ils étudient comme ça, sans attendre, sans rien. Et ils ne vont découvrir le Christ que le Christ est présent qu'à un moment précis, quand il leur donne le pain à manger. Ah, alors ça c'est très intéressant et très compliqué. Parce qu'il y a là une interprétation que je n'aime pas et que je vous donne néanmoins. Peut-être que c'est celle-là qui vous convaincra, tant pis pour moi. C'est l'explication sacramentelle de la suprématie du sacrement sur la parole. C'est ce que disent certains chrétiens qui disent « Bon, étudier la Bible, c'est très bien, mais ce n'est qu'une sorte de préliminaire, finalement, qui ne doit nous amener à la seule chose essentielle qui puisse donner la présence réelle du Christ, c'est la participation à la Sainte Cène ou à l'Eucharistie. » Et que là se trouve la présence réelle, le vrai moyen de découvrir le Christ et que tout le reste ne sont que des amuse-gueules, finalement. Comme si la prédication était un amuse-gueule et que la seule chose essentielle était l'Eucharistie. Dans la tradition purement calviniste, eh bien, on ne voit pas ça comme ça. Et je ne suis pas toujours calviniste, mais sur ce point, je le suis. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous faisons exprès de ne pas mettre de Sainte-Cène de temps en temps. Pour dire la prédication et l'étude de la Bible, ça n'est pas un amuse-gueule. C'est au contraire le centre même de l'affaire. Et que si les disciples découvrent que Jésus est là au moment où il leur donne à manger, c'est que tout à coup ils font cette découverte essentielle, que cette parole n'est pas qu'une parole intellectuelle, mais que c'est une parole qui peut les nourrir. Tout à coup ils découvrent que cette présence du Christ n'est pas qu'une présence, bon il marche avec nous tant mieux et ça me fait une belle jambe, mais c'est une présence qui est une source de nourriture pour ma vie. Et que cette présence du Christ et cette parole est vraiment un pain et du vin, c'est-à-dire quelque chose qui me donne de la force dans ma vie, et du vin qui me donne la joie de mon âme. Et quand on découvre cela, on fait l'expérience fondamentale que la présence du Christ et sa parole sont vraiment une nourriture qui peut transformer notre vie et nous donner tout ce dont nous avons besoin. Et autrement dit, les disciples vont d'abord faire une démarche intellectuelle, une curiosité, un débat intérieur, une réflexion. Et tout ce que l'on peut souhaiter, c'est que cette démarche intellectuelle puisse amener à une sorte de réalisation à un moment donné qu'il y a dans cette parole une véritable source de vie, une source de force et de joie. Et à ce moment-là, tout change. Tout change, et à ce moment-là, il découvre qu'il y a à côté d'eux une présence et que cette présence qu'ils croyaient au début n'être que réflexion intellectuelle, c'est finalement le sens même de la force de leur vie. Alors tout à coup, ils disent « Reste avec nous, oui, reste avec nous, Seigneur, que l'on puisse toujours avoir avec nous ce soutien, cette force, cet amour de douceur, de tendresse qui me permet de, de trouver dans les chemins arides de ma vie le soutien dont j'ai besoin, le courage, et de garder toujours la joie et la force. Mais c'est alors que tout change. D'abord, Jésus dit, non, désolé, moi je vais plus loin que ça. Ça, c'est, j'aime bien ça, je vous l'ai dit. Jésus ne se contente pas de là où nous nous arrêtons, mais toujours il veut aller plus loin. Et puis je crois que dans le texte, Jésus est quand même plus gentil que ça, puisque les disciples insistent, alors il dit d'accord, je reste. Bon, il reste là. Mais à ce moment-là, ça va quand même changer pas mal, parce que d'abord les disciples vont revenir de leur éloignement, donc ça va les remettre dans l'ordre, hein, ils vont revenir vers Jérusalem, c'est-à-dire ils retournent vers Dieu, et ils reviennent vers les autres, pour rencontrer les autres. Avant, ils s'éloignaient de la communauté, ils s'isolaient, autrement dit. Donc, ils reviennent vers les autres et ils deviennent des acteurs et des témoins de cette bonne parole. C'est tout à fait comme il faut. Mais ce qui est très bizarre dans ce texte, c'est que le Christ disparaît, pouf, au moment où ils en ont besoin. D'abord, j'aime bien ça parce que, vous le savez, moi, je suis un partisan des apparitions du Christ comme des phénomènes plus spirituels que matériels, et un corps que personne ne reconnaît et qui disparaît d'un coup de baguette magique, ça n'est pas très physique. Mais néanmoins, il disparaît d'un coup, et ça mérite réflexion. Soit ça peut faire allusion à la réalité de la vie spirituelle. Dans notre vie spirituelle, il peut y avoir des moments où vraiment nous nous sentons proches de Dieu, et puis des moments où on a l'impression que Dieu a été enlevé, qu'il n'est plus là. Et donc oui, il y a des hauts et des bas dans la vie spirituelle, des moments d'exaltation mystique peut-être, et des moments d'absence totale du Christ ou de Dieu. Enfin, on n'y pense pas, ce n'est pas du tout le sujet. Eh bien voilà, écoutez, c'est comme ça depuis Emmaüs, et donc Christ n'est pas toujours là, et quand il n'est pas là, eh bien à ce moment-là, retournez à Jérusalem, allez voir les autres, rassemblez-vous avec les autres, et agissez pour lui. On n'est pas obligé de rester toujours en prière à partager le pain et le vin, on finirait par exploser comme des baudruches spirituelles. Et puis, plus complexe, peut-être que ça nous montre aussi que cette espèce de petite lecture un peu morale que je vous ai fait du texte en disant il faut lire la Bible, se questionner, Jésus est présent, on ne s'en rend pas compte, mais tout à coup on découvre que ça nous nourrit et puis tout va bien, on va vers les autres. Finalement, c'est un peu plus compliqué que ça. Un peu plus compliqué que ça parce que cela nous montre que cette démarche-là même n'est peut-être même pas le but en soi, mais n'est que la pédagogie qui permet d'arriver à autre chose, qui est la seule chose essentielle, qui est finalement d'aller vers les autres et d'agir et de témoigner. C'est pareil pour la pratique religieuse d'ailleurs, qui n'est pas non plus un but en soi. Et donc le but, voyez-vous, n'est pas de rester dans une sorte de contemplation passive, de jouir béatement de la douce présence de Dieu, mais c'est d'être envoyé en mission, et pour cela, il faut parfois que Dieu s'en aille. C'est assez compliqué la vie chrétienne, mais il est parfois avantageux de vivre comme si Dieu n'était pas là. C'est ce que dit Jésus d'ailleurs en Jean 16, quand il dit cette chose très curieuse, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. » Donc après avoir tant prêché l'importance de la présence du Christ, je vais dire, une fois que vous l'avez, faites comme s'il n'était pas là. Parce que si on croyait que Dieu était là dans tout et toute chose, on ne ferait plus rien. Et donc nous devons savoir que Dieu est présent dans notre cœur, mais agir comme s'il n'était pas là. C'est-à-dire, on ne peut pas, sinon on ne ferait rien. On dirait, Dieu n'a qu'à faire la paix dans le monde s'il le veut. Dieu n'a qu'à guérir les enfants s'il le souhaite. Et Dieu n'a qu'à prendre les choses en main. Mais nous devons, en fait, dans ce monde, savoir que nous avons cette force et agir dans le monde comme s'il n'était pas là. Et finalement, si dans notre vie, il y a des hauts et des bas dans la vie spirituelle, c'est peut-être très bien. Parce que ce qui est fécond, ce n'est ni l'absence totale de Dieu, ni l'obsession permanente de sa présence, mais c'est sa présence dans son absence, et je dirais son absence dans sa présence. Si Dieu est absent, il faut le chercher et le rendre présent. S'il est présent, laissez-le de côté et agissez pour les autres, comme si vous étiez responsable de votre action dans le monde. Et finalement, je reviens à mon échelle de Jacob. Je l'ai toujours interprété comme on m'a appris quand j'étais petit, que les anges qui montent et qui descendent, ce sont les bonnes paroles de Dieu qui viennent vers nous, et ce qui monte sur l'échelle, c'est nos bonnes œuvres ou nos prières qui montent à Dieu. Bien, je ne suis pas sûr. Finalement, est-ce que dans l'échelle de Jacob, ces anges, ce ne sont pas mes paroles à moi, mais les anges, en général, c'est les paroles de Dieu. Donc c'est bien cette présence de Dieu qui vient vers moi et qui m'est donnée et qui m'est retirée. Et que sans arrêt, cette présence de Dieu, elle m'est donnée et elle m'est retirée. La parole vient et elle repart. Et c'est ces messagers de Dieu qui font cette présence et cette absence. Et finalement, c'est exactement ça dans toute l'histoire du Christ que nous célébrons en ce moment. Le Christ est présent, se donne pleinement présent dans la Sainte Cène, et ensuite les disciples vont au tombeau, ils le trouvent vide, absence réelle, plus de Christ. Et puis après, Jésus apparaît, présence, et puis l'ascension, absence. Et donc sans arrêt, ce Christ qui monte et qui descend, qui va et qui vient, est finalement tout à fait, comme dans notre vie, cette manière avec laquelle la spiritualité ou la foi ne doit pas être comme une sorte d'obsession permanente, comme s'il fallait tout faire avec une sorte de vernis spirituel, religieux ou théologique, mais que notre vie, elle est fécondée par cette présence et cette absence de Dieu qui vient sans arrêt et qui repart, autrement dit. C'est ce mouvement créateur qui permet d'éviter, je dirais, l'asphyxie ou la stérilité. Alors donc, grâce à Dieu qui nous accompagne, effectivement, il nous accompagne si nous acceptons de marcher avec lui, de nous batailler avec lui, alors notre vie de tout triste peut devenir joyeuse, pleine de lumière. Alors, d'endormis comme Jacob, nous pouvons nous réveiller, de couchés et abattus, nous pouvons nous relever, et c'est ça le sens de Pâques. Parce que finalement, qui ressuscite dans l'affaire, c'est les disciples qui reviennent à l'espérance, à la joie et à la paix. Et c'est par ce procédé que nous pouvons être bénéficiaires de cette bonne nouvelle de Pâques, de la résurrection qui ne concerne pas que le Christ, mais qui nous concerne aussi. Et alors, et c'est là le dernier des grands miracles que Pâques propose à ceux qui veulent cheminer avec la parole, c'est que le lieu qui s'appelait autrefois, le portail de la perversion ou de l'éloignement, s'appelle désormais la porte des cieux. Ça, c'est l'histoire de Jacob, vous la relirez, hein, c'est ce qu'il dit. Jacob dit, cet endroit, je l'appelle la porte des cieux, alors qu'autrefois, ça s'appelait Oulamaus, c'est-à-dire la porte de l'éloignement ou de la perversion. Et la porte des cieux, c'est comme ça aussi, c'est ce que veut dire le nom de Bethel, Beth-El, Beth c'est la maison, El c'est de Dieu, la maison de Dieu, ce nom donné par Jacob à cet endroit qui s'appelait autrefois la porte de la perversion. Et vous voyez toute cette histoire donc de l'éloignement qui tout à coup conduit à la présence. Et c'est la juste conclusion du texte de l'échelle de Jacob qui s'applique aussi au récit de Luc, et que cet Emmaüs devienne la maison de Dieu, que cet Emmaüs où nous allons un peu par erreur devienne la porte d'une grande découverte qui nous amène à Dieu. Et c'est ce que je prie Dieu, que cela puisse être aussi votre cheminement et notre cheminement à chacun de vous en ce temps de Pâques, qu'en allant, en croyant aller vers l'éloignement, la perdition, toutes ces choses un petit peu sombres et négatives et de tristesse, et bien que ce soit une porte extraordinaire qui, avec l'aide de Dieu, nous amène à la vie, à la paix et à la plénitude de la présence de Dieu. Amen.